sur Radio Valois Mulcien, page d'histoire. Et s'il n'y avait plus de plantes? Question que se pose Jean-Marie Pelt dans son livre « Mes plus belles histoires de plantes ». En voici les premières pages. Et s'il n'y avait plus de plantes? Eh bien, nous ne serions évidemment pas là pour en parler. D'ailleurs, nous ne serions même pas là du tout. Plus de plantes, plus d'hommes. Nous n'aurions donc pas l'occasion d'admirer ces superbes roses qui égayent le studio d'enregistrement où nous venons raconter ces histoires. Plutôt froid ce studio. Pas une gravure, pas un bibelot, pas même un cendrier. Il est vrai que le cendrier ne servirait à rien. Plus de plantes, plus de tabac. Ouf ! Fini cette odeur âcre qui flottait tout à l'heure dans les couloirs. Mais fini aussi l'effluve si délicat de ce parfum. Car les parfums, à quelques rares ingrédients près, viennent des plantes. Ils sont une sorte de luxe que les plantes nous offrent gracieusement, mais qu'elles destinent en réalité aux insectes. Il n'y aurait pas non plus ces journaux sur cette banquette, car leur fabrication consomme des tonnes de pâte à papier qui provient pour l'essentiel des forêts de pins. Plus de plantes, plus de pain. Et plus non plus de pain, car plus de blé. Plus de casse dans les banques, car plus de billets. Le blé des perceurs de coffres. Au restaurant, ce serait pire encore. Plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales. Condamnation de tout régime végétarien. Mais plus de viande non plus, car la vache broute l'herbe qui fait sa chair. Plus d'épices, plus de condiments, plus de jus de fruits, de bière, de vin, de café, d'alcool. Il ne resterait que le sel et l'eau. Bref, nous serions condamnés à nous nourrir d'eau de mer, comme les toutes premières algues, nos très lointaines ancêtres, vieilles de plus de 3 milliards d'années. Malheureusement, nous ne sommes pas des algues et ce régime ne nous conviendrait guère. Imaginez cafés et restaurants ne servant plus que des eaux minérales. Et les symboles, alors ? Plus de roses pour le PS, plus de cèdres pour le Liban, plus de chardons pour la Lorraine, plus de pommes à Antenne 2, plus de pissenlits semés à tout vent chez Larousse, et, pire encore, plus de santé ni de beauté par les plantes. D'où une perte substantielle de chiffre d'affaires pour éditeurs et libraires. À dire vrai, il n'y aurait plus ni éditeur ni libraire, car le papier, on l'a dit, vient aussi des plantes. Il n'y aurait pas davantage de pharmaciens, car bon nombre de médicaments sont d'origine végétale. Mais les autres, les médicaments chimiques, tous proviennent de substances dérivant du pétrole et du charbon. Et s'il n'y avait pas eu les immenses forêts d'autrefois, il n'y aurait point de charbon formé des squelettes d'arbres fermentés dans le ventre de la terre au cours de millions d'années. Quant au pétrole, il provient d'organismes divers, sédimentés au fond des mers et généralement nourris de plantes. Pas de plantes, pas de charbon, pas de pétrole, donc pas de chimie. Inutile de poursuivre, chacun a compris. Plus de plantes, plus rien. Et surtout, plus d'oxygène dans l'air. Donc, plus de respiration possible. Car ce sont les plantes qui ont accumulé l'oxygène dans l'atmosphère. La seule atmosphère respirable de toutes les planètes et de tous les satellites connus. La seule hospitalière à l'homme. Bref, sans plantes, nous mourrions non seulement affamés, mais encore asphyxiés dans un désert de sable et de cailloux. Mais imaginons le scénario inverse. ce sont les plantes qui parlent. Elles se disent entre elles. Et s'il n'y avait plus d'hommes ? Les fleurs des horticulteurs et des fleuristes se lamenteraient. Quel désastre pour elles qui ne peuvent vivre que sous l'immédiate protection de l'homme qui les a fabriquées en améliorant par sélection leurs ancêtres. Le maïs aussi serait condamné, dont les grains sont incapables de germer, enveloppés qu'ils sont dans des pièces protectrices dont seule la main de l'homme peut les délivrer. Comme le seraient de leur côté les loulous de Poméranie ou les lévriers afghans, ces races de chiens distingués qui, dans la nature, ne tiendraient guère le choc face à la concurrence de carnivores infiniment plus compétitifs et débrouillards. Mais les fleurs sauvages ainsi que la grande masse des plantes se réjouiraient et leur diraient: vous voilà punis d'avoir pactisé avec ce bipède que nous redoutons tant. N'est-ce pas lui qui sème un tel désordre dans la nature ? Nous allons enfin avoir la paix, ne plus être menacés à tout instant de disparaître sous les roues de ces engins qui labourent la terre, culbutent les forêts, sillonnent de pistes étranges les lieux les plus tranquilles du monde où nous étions jadis si bien. Plantes et animaux poursuivraient paisiblement leur labeur séculaire au sein de la nature, les plantes fournissant l'oxygène, les animaux le consommant en respirant, dans cet équilibre parfait que l'homme est venu perturber en le détournant au profit de ses seuls intérêts. Bref, si nous ne pouvons nous passer des plantes, les plantes, elles, peuvent parfaitement se passer de nous. Sans nous, toujours autant de plantes et, somme toute, probablement des plantes heureuses et tranquilles. Encore qu'une plante n'est jamais vraiment tranquille, tant elle suscite de convoitises. D'identité des plantes, nom et prénom, ou les plantes et les dieux. Connaissez-vous le Podophyllum peltatum ? Non. Eh bien, moi non plus. Je ne le connais que de nom, mais je ne l'ai jamais vu, car cette plante ne pousse qu'en Amérique du Nord, et si l'on parle d'elle, c'est qu'elle possède quelques propriétés médicinales intéressantes, en particulier purgative, laxative et antitumorale. Comme toutes les plantes, elle a un nom latin, conformément au système fixé par Linné au XVIIIe siècle. Bref, elle est Podophyllum peltatum, comme nous sommes, nous les hommes, des Homo sapiens. Le premier nom est le nom de genre. Le second, le nom d'espèce, un peu comme chacun de nous a un nom de famille et un prénom, si l'on peut s'autoriser cette comparaison boiteuse. Mais ce peltatum m'intrigue. Pourquoi cette plante porte-t-elle en quelque sorte mon propre nom ? M'aurait-elle été dédiée par quelque botaniste sympathisant, comme le veut une ancienne tradition de la profession. Certes non. Si le podophyllum s'appelle Peltatum, depuis 2 siècles, c'est que le grand Linné lui a donné ce nom tout simplement parce que ses feuilles sont pelletées. Mais qu'est-ce à dire ? Consultons le littré et nous apprendrons qu'elles sont en forme de pelte. Voilà qui se rapproche dangereusement de moi. Courons donc à pelte et nous apprendrons qu'il s'agit d'un petit bouclier en forme de croissant. Les botanistes se sont emparés de cet instrument pour l'assimiler à un certain type de feuille où le pétiole s'insère directement au milieu du limbe. C'est ce que l'on voit par exemple chez les feuilles du nénuphar ou chez celles des capucines. Si l'on peut risquer le rapprochement entre ces feuilles pelletées et l'auteur de ces feuilles imprimées, c'est que, bien souvent, les plantes portent le nom des botanistes qui les ont découvertes. Ainsi, mon ami et collaborateur de toujours, Jacques Fleurentin, peut-il se prévaloir d'un superbe aloès qu'il découvrit il y a une dizaine d'années au Yémen et qui trône généreusement depuis lors dans son bureau, baptisé par un botaniste ami, Aloe Fleurentinorum. Nul botaniste n'avait jamais repéré cette plante avant lui, et il était légitime et sympathique de la lui dédier. Dans les annales internationales de la botanique, de la Chine à l'Argentine et de la Corrèze aux Zambèzes, elle portera pour toujours son nom. C'est ainsi que pratiquent les botanistes depuis plusieurs siècles, en particulier depuis Linné, qui baptisa de la sorte des milliers de plantes rapportées par nos grands ancêtres, les botanistes explorateurs qui se sont succédés depuis la Renaissance. Ainsi, le frère Charles Plumier, de l'ordre des Minimes, botaniste du roi, est-il le père et l'auteur du frangipanier qui lui doit son nom latin de Plumeria. Le naturaliste suisse du XVIe siècle, Gessner, a donné son nom au Gessneria et à la famille des Gessneriacées. Son disciple, le Lyonnais Bohun, a baptisé les Bohinia. Le remuant explorateur botaniste Alfred Grandidier a découvert et baptisé à Madagascar toute une série de plantes qui n'existaient que sur la grande île et nulle part ailleurs au monde, les Didieracées. Gessneriacées, Didieracées, assez, direz-vous, cessons cette litanie et venons-en à des exemples un peu plus catholiques. Sachez alors que c'est l'anglais Forsyth qui a baptisé le Forsythia, tandis que l'allemand Léonard Fuchs avait déjà baptisé au XVIe siècle le Fuchsia. Quant au français Bougainville, il est naturellement le parrain des Bougainvillais, bien qu'il ne fût point botaniste, mais chef d'une expédition qui débarqua à Rio en 1766. La frégate La Boudeuse et la corvette L'Étoile avaient traversé l'Atlantique et c'est le botaniste du voyage, Commerson, qui, découvrant cette plante superbe à Rio, la dédia à Bougainville, le chef de l'expédition. Quant au Strelitzia, il évoque l'épouse de George III d'Angleterre, la reine Charlotte-Sophie de Mecklembourg-Strelitz, à qui il fut dédié par Sir Joseph Banks, coéquipier du célèbre Cook. Mais, direz-vous, toutes les plantes ne proviennent pas des pays lointains. Elles ne peuvent donc pas toutes avoir des explorateurs pour parrains. Qu'en est-il des nôtres, celles qui poussent en Europe, et qui, pour cette raison, sont naturellement connues depuis bien plus longtemps? C'est souvent à la mythologie grecque qu'elles doivent leur nom. Comme toutes les mythologies, celles de la Grèce antique insiste sur l'unité essentielle de l'univers, manifestée par les liens étroits entre toutes les créatures. Ainsi, l'homme y apparaît comme proche des végétaux, au point que certains personnages peuvent devenir plantes, généralement à la suite d'événements tragiques qui se terminent par ce genre de métamorphose. Voici une première histoire que l'on pourrait intituler « La myrrhe, la rose, l'anémone et l'adonis ». Myrrha était la fille d'un roi de Chypre. Sa beauté était légendaire au point qu'elle prétendit un jour égaler Aphrodite. La grande déesse, pour se venger, fit naître en Myrrha un désir incestueux envers son père. Myrrha résista à cette passion, mais finit par céder. Elle réussit à s'unir au roi son père pendant son sommeil et à son insu. Fière de ce subterfuge, elle se risqua à récidiver la nuit suivante, mais son père se réveilla et voulut alors la tuer. Myrrha réussit à s'enfuir et les dieux, pour la protéger de la vengeance paternelle, la transformèrent en arbre, l'arbre à myrrhe. Les pharmaciens vendaient autrefois la myrrhe en larmes. Or, ces larmes étaient précisément l'exsuda odorant de l'écorce de cet arbre, symbolisant les larmes de Myrrha. Pourtant, bien que transformée en arbre, Myrrha était enceinte de son père. Le fœtus poursuivit donc sa croissance au cœur de l'arbre, puis un beau jour, l'enfant vint au monde en fendant l'écorce. Aphrodite, attendrie, fut émue par sa beauté, le prit sous sa tutelle et le baptisa Adonis. Elle le confia à Perséphone, la déesse des enfers, pour qu'elle le prît en nourrice jusqu'à l'âge de raison. Mais Perséphone aussi fut émerveillée par la beauté d'Adonis et, le moment venu, refusa de le rendre. Il fallut que les dieux arbitrent ce conflit entre les deux grandes déesses et il fut décidé qu'Adonis passerait un tiers de l'année avec l'une, un autre tiers avec l'autre et ferait ce qu'il voudrait durant le dernier tiers du temps. Le malheur arriva pendant la période où le jeune et bel Adonis était en compagnie d'Aphrodite. Profitant d'une absence de la déesse et déjà épris d'indépendance, il s'éclipsa à la chasse et fut tué dans la forêt par un sanglier. Aphrodite entendit ses appels, accourut en hâte, mais se piqua à une épine d'églantier. Le sang de la déesse coula sur la fleur et depuis ce jour, les roses, qui étaient jusqu'alors des fleurs blanches, furent roses ou rouges. Adonis mourut dans les bras de la déesse, son propre sang se répandit et colora d'autres fleurs, nos Adonis d'été aux fleurs rouges sang, et nos anémones, qui depuis ce jour ont elles aussi la couleur du sang d'Adonis et son éphémère fragilité. Elles s'effeuillent au moindre souffle de vent, comme l'indique leur nom grec dérivé d'anémos, le vent, et ne fleurissent que quelques jours au printemps. Ce mythe d'Adonis, qui a engendré plusieurs noms de plantes, suggère de surcroît l'origine végétale de l'homme, puisque Adonis naît d'un arbre, et que son destin évoque celui de toute végétation. Comme une graine, il tombe d'un arbre, puis descend aux enfers, dont il renaît superbe et somptueux le temps d'une saison, pour mourir à nouveau, perdant ses belles couleurs en même temps que la vie. L'histoire de Narcisse évoque un mythe analogue et comporte plusieurs versions. Toutes les nymphes étaient amoureuses de ce beau jeune homme qui pourtant n'admirait que lui-même. On le voyait se languir des heures durant près d'une source à contempler sa propre image. Les dieux décidèrent de le punir de cet excès de narcissisme. Alors qu'il se contemplait, comme à l'accoutumée, dans le miroir des eaux, il y tomba de ravissement, se noya et fut aussitôt transformé en Narcisse, cette magnifique fleur couronnée d'or qui penche encore aujourd'hui sa corolle sur l'eau. Et que dire des nombreuses métaphores consécutives aux amours d'Apollon? Voici d'abord le jeune berger Cyparissus. Apollon, notoirement bisexuel, avait un faible pour lui. Mais ce sentiment n'était point partagé et Cyparissus vivait avec un cerf pour seul compagnon. L'enfant et le cerf ne se quittaient jamais. Mais voici qu'un jour de grande chaleur, le cerf se coucha à l'ombre pour dormir et Cyparissus le tua par mégarde. Éperdu de douleur, il pleura sans trêve son fidèle compagnon. Apollon, le prenant en pitié, finit par le transformer en cyprès. Voilà pourquoi le cyprès est aussi intimement associé au cimetière et évoque la tristesse et les larmes, tout autant que le symbole inverse, nous y reviendrons, de la résurrection. Hyacinthe fut un autre amant malheureux d'Apollon. Jouant au lancer du disque, Apollon le tua par mégarde. Afin d'immortaliser son jeune amant, qu'il avait si malencontreusement assommé, Apollon fit naître du sol une fleur imbibée de son sang, la jacinthe, dont les pétales recourbés dessinent la lettre Y, initiale grecque du nom du jeune héros. Toutes ces métamorphoses résultaient en vérité d'un drame, et l'histoire de la nymphe Daphné n'échappe pas à la règle. Apollon tomba follement amoureux de cette nymphe à la beauté légendaire. Mais Daphné, hélas, n'était guère attirée par les hommes. fût-ce par le plus beau des dieux, et repoussait obstinément les avances d'Apollon. Furieux, celui-ci la poursuivit. Sur le point d'être rattrapé, Daphné supplia Zeus de la prendre en pitié, et celui-ci la transforma en un laurier sauvage. Apollon n'eut plus qu'à se rabattre sur la plante, et depuis ce jour, le laurier devint sa plante préférée. L'histoire de la nymphe Clytie est plus belle encore. Sous les traits du soleil, son attribut, Apollon tomba amoureux de Clytie. Cette fois, leur amour fut partagé et ne connut point d'ombre, ce qui ne saurait surprendre s'agissant du dieu soleil. Mais l'astre du jour est capricieux. Apercevant d'aventure une charmante jeune fille, le Cotoé, il s'en est pris follement au point de ne pouvoir se résigner à quitter le ciel. Les jours devinrent alors démesurément longs et jamais l'aube ne se leva si tôt. Or, le père de Le Cotoé, apprenant cette liaison, en prit ombrage. Il enferma sa fille dans l'ombre d'un souterrain où elle mourut d'inanition. Le soleil en fut inconsolable. Il refusa de revoir Clytie, qui pourtant n'avait cessé de l'aimer. Clytie sombra à son tour dans la tristesse et le désespoir, et s'en alla seule au désert, où elle fixa des yeux le soleil sans désemparer 9 jours durant. Celui-ci la prit alors en pitié et la changea en une fleur qui demeure toujours tournée vers lui, l'héliotrope. Les amours tragiques d'Apollon, on le voit, peuplèrent la terre d'une flore généreuse. On imagine quels eussent été les rapports du dieu soleil avec le grand tournesol si les Grecs avaient jamais connu cette plante. Du végétal dédié à tel ou tel botaniste, oublié, à la fine fleur des récits mythologiques de la Grèce antique, les plantes ne sont pas traitées à égalité. Les unes évoquent une belle histoire, les autres un pieux souvenir. Mais toutes ont un nom qui désigne leur espèce et permet de les identifier sans erreur. La plupart ont aussi des surnoms qu'il conviendrait plutôt de qualifier de prénoms, car ils sont très antérieurs aux noms de baptême officiels que leur ont conféré les botanistes et qui est consigné à leur état civil. Ces prénoms ou surnoms sont leurs noms populaires, d'une étonnante diversité. Sait-on, par exemple, que le coquelicot, dont l'appellation sonne comme le chant du coq, la couleur vive de ses fleurs évoquant la crête de cet animal, n'a pas moins d'une 50aine de noms populaires variant d'une région à l'autre. L'onomatopée évoquant le chant du coq est encore plus évidente dans le nom normand de « Cotecolico » ou encore dans celui de « Carcarico » dans la Sarthe. À croire, en revanche, que les gens du Nord n'ont jamais bien écouté le mâle des basses-cours car ils baptisent le « Coquelicot » « Terlicoco » ou « Cocriaco ». Dans le centre, on simplifie la question. Le coquelicot devient « co » et dans le Cotentin, « pied co ». Allez savoir pourquoi on l'appelle « fantina » en Corse, « pulogo » dans le Var, « ponceau » en Champagne, « moine » dans le Poitou, d'autant plus curieux qu'il ne vit jamais seul. Fiovolage dans la région lyonnaise, pour ne citer là que quelques-uns de ces noms répertoriés par l'ethnobotaniste Lyotagui. Qui sait si, ça ou là, on ne l'appellera pas demain Cocorico Boy. Le cas des herbes de la Saint-Jean est à l'inverse de celui du coquelicot. Ce n'est plus la même plante qui porte de nombreux noms différents, mais le même nom qui se trouve attribué à de multiples plantes. Plusieurs dizaines au moins, dont l'armoise, le millepertuis, la verveine sauvage, etc. Mais la Saint-Jean correspond au solstice d'été et nombreuses sont les plantes censées atteindre alors leur force maximale. Grâce soit donc rendue, à titre posthume, au grand Linné qui nous a fourni un système universel de codification. La désignation botanique latine, où chaque plante n'a qu'un seul nom, le même dans tous les pays, et qui s'exprime par un binôme. Ainsi, la pomme s'appelle Pyrrhus. C'est son nom de genre. Communis, c'est son nom d'espèce. Elle s'appelle ainsi partout, y compris dans les pays de l'Est, où aucun botaniste digne de ce nom n'aurait l'idée, pour se conformer aux idées dominantes, de la baptiser Pyrrhus communiste. Date de naissance. Où commence le commencement? Les plantes ont-elles une date de naissance? Voilà une question saugrenue qu'aucun botaniste, semble-t-il, ne s'est à ce jour posée. Mais comment l'éluder dès lors que l'on souhaite dresser la carte d'identité d'une plante? Les plantes, comme tous les êtres vivants, ont un commencement et une fin, donc une naissance et une mort. Qu'en est-il de cette naissance et où la situer? Est-ce le moment où le spermatozoïde, véhiculé par le grain de pollen, rejoint au sein du pistil la cellule femelle? Certes, non. Car si cet instant est celui de la fécondation, il n'est en aucune manière celui de la naissance. Les humains l'appellent la conception. Et nous sommes bien incapables d'en préciser l'heure exacte. La rencontre du spermatozoïde et de l'ovule s'effectue silencieusement dans le ventre de la mère, en dehors de toute manifestation visible. Nouvelle analogie entre les plantes et les hommes. Ce moment de la conception, celui qui marque le véritable point de départ d'un nouvel individu, reste secret. Comme si la vie voulait donner raison au grand philosophe allemand Heidegger, pour qui les origines se cachent toujours sous les commencements. Autrement dit, quand un phénomène devient perceptible, c'est qu'il a déjà acquis une certaine importance, une certaine dynamique dans le temps et dans l'espace. C'est toute la différence entre l'œuf microscopique tapis dans l'utérus ou le pistil, et le bébé ou la graine surgissant du ventre de la mère. Le moment de la naissance ne serait-il pas plutôt celui où la graine se sépare de la plante mère et tombe sur le sol. Certes, direz-vous, nous ne tombons pas à terre lorsque nous quittons le ventre de notre mère. Les choses se passent avec un peu plus de délicatesse. En revanche, il est exact que notre naissance correspond très précisément avec le moment où nous quittons le corps maternel et, de ce point de vue, l'analogie avec la graine est frappante. Mais il subsiste une différence capitale. À compter du moment où nous quittons le ventre de notre mère, nous poursuivons sans cesse notre croissance, comme nous la poursuivions, d'ailleurs, sans interruption, in utero, depuis le moment de la conception. Rien de tel pour les plantes. La graine va rester à l'état de vie latente pendant des jours, des semaines, des mois, des années, voire des siècles. Immobile et inchangée, comme un fœtus ou un bébé pétrifié en état d'hibernation. Ainsi, prendre la séparation de la graine de la plante mère comme référence pour la naissance entraînerait des interprétations proprement ubuesques de l'âge des plantes. Voici par exemple une graine de lotus conservée pendant 1000 ans dans une tourbière froide et qui décide enfin de se réveiller pour enfanter son bébé lotus. Ces temps de latence interminables donneraient aux plantes des longévités ahurissantes, et ce lotus, qui ne vit pourtant qu'une seule année, se trouverait gratifié d'une existence millénaire pour la seule raison que ses graines sont capables d'attendre une éternité des conditions favorables à leur germination. Dans ce cas limite, une plante dont le cycle ne s'étale en fait que sur une saison serait née 1000 ans auparavant. Hypothèse d'autant plus absurde que nul ne sait si cette germination aura bien lieu, si la graine se réveillera vraiment, de sorte que la prétendue date de naissance a toute chance de correspondre à la venue au jour d'un bébé mort-né. Bref, la séparation et la chute de la graine ne sauraient en aucune manière être considérées comme la date de naissance des plantes, en raison du temps plus ou moins long qui s'écoule entre ce moment et la germination. Il paraît donc raisonnable de fixer cette date au moment de la germination, lorsque la longue hibernation de la graine prend fin. Mais une nouvelle question se pose alors. Comment déterminer le moment exact où le mécanisme de la germination commence à se manifester dans les ténèbres internes de la graine? Car les phénomènes de transformation qui se produisent dès l'instant où le germe reprend silencieusement sa croissance sont aussi invisibles qu'insaisissables. Vu de l'extérieur, la graine reste inchangée pendant cette toute première phase de la germination. On ne dispose donc d'aucun point de repère pour l'appréhender avant l'éclatement des téguments sous la pression du germe. Nous voici de nouveau plantés, ce qui, concernant une graine qui germe, n'est pas en soi une mauvaise chose.
Thank you.
Si nous étions jardiniers, sans doute déciderions-nous d'adopter comme date de naissance le moment précis où la graine lève, quand la terre se craquelle et que le petit pois ou le haricot commence à montrer le bout de l'oreille. Bref, les plantes, si elles ne sortent pas du ventre de leur mère, émergent en tout cas de celui de la terre mère. Il s'agit bien d'une naissance à caractère purement symbolique, certes, mais qui rejoint la tradition constante des grands mythes où l'homme comme la plante naissent tous deux de la terre. Une nouvelle difficulté surgit aussitôt. Selon le degré d'enfouissement de la graine, le germe qui crève la surface sera déjà plus ou moins développé et aura percé les parois de la graine à une date plus ou moins éloignée. En fait, la terre n'est bien qu'une mère symbolique pour la jeune plante, car c'est la graine nourricière qui a pour mission de nourrir le jeune bébé. La naissance ne correspond donc pas non plus à la levée des semis. Au bout du compte, tous ces critères manquent de rigueur. Le meilleur repère est sans doute la sortie du germe perçant les parois de la graine qui s'effectue généralement dans le sol. Ainsi, les plantes naissent bien de la terre et dans la terre, comme le veulent les symboles et comme tout un chacun peut le constater. Le phénomène est aisément observable puisque les téguments se craquellent et que le germe minuscule apparaît alors. Il peut être daté avec précision et confère à la plante qui germe une date de naissance incontestable, tout au moins lorsqu'il s'agit de plantes à graines. Pour les autres, en effet, d'autres problèmes se posent, que nous nous garderons bien d'aborder pour ne pas compliquer les choses. À partir de cette date précise, apporté sur sa carte d'identité, il sera aisé de suivre la croissance régulière de la plante et de déterminer son âge exact. Celui-ci est fort variable. Moins de 15 jours pour les éphémères des déserts qui s'empressent de germer, de fleurir, de fructifier et de produire leurs graines à la moindre pluie. Plus couramment, quelques mois pour l'immense bataillon des plantes annuelles qui peuplent nos flores et bouclent leur cycle du printemps à l'automne. Beaucoup plus rarement, un an et demi pour des bisannuelles qui font une rosette de feuilles la première année et montent une hampe florale la seconde. La digitale et le bouillon blanc sont les prototypes de ces plantes qui étalent leur cycle sur 2 années et vivent en gros 18 mois, du printemps à l'automne de l'année suivante. S'il s'agit d'un arbre, on déterminera son âge en fonction du nombre de ses anneaux, avec des records de l'ordre de 5000 ans, comme on le verra. Mais ici, la date de naissance est évidemment impossible à déterminer. Bienheureux si l'on peut déjà en fixer l'année. Telle est la mission de la dendrochronologie, science de la lecture de l'âge des arbres par le décompte des anneaux. Quant aux mousses ou aux fougères, elles n'ont à proprement parler pas de date de naissance, puisqu'elles ne font pas de graines. Naissance et fécondation se confondent, comme chez nous. L'œuf croît régulièrement jusqu'à l'âge adulte sans phase de latence. Le véritable point de départ d'un nouvel individu correspond donc au moment de la fécondation qui se fait au sein des organes femelles, lorsqu'un spermatozoïde de passage se trouve appâté par les hormones émises par la cellule femelle, mais le phénomène n'est observable qu'au microscope, nullement dans la nature. L'heure de la naissance reste donc secrète. Pauvre mousse, pauvre fougère qui n'ont pas d'anniversaire connu, mais qui, au fond, ne s'en portent pas plus mal. Heureuse panda, mon amie africaine, qui n'avait pas non plus de date de naissance connue. Point d'astrologie pour vous, point de thème de nativité, point d'horoscope, point d'appartenance à un signe zodiacal. Heureuse amie, heureuse plante à qui le ciel ne livrera jamais ses secrets, ni l'angoisse de les connaître, ni la crainte de subir ses courroux. Quant aux plantes à graines, si elles ont une date de naissance, elles ont aussi un thème astral qui doit être aisé d'établir. Quant à en tirer des conséquences pour leur destin, c'est là une entreprise hardie que nous laisserons à plus compétents ou plus malins que nous. C'était Page d'Histoire, lu dans le livre de poche pratique de Jean-Marie Pelt, Mes plus belles histoires de plantes, librairie Artem Fayard, 1986, accompagné par le String Quartet d'Henriette Bosmans, 1895-1952, sur Radio Valois-Mulcien 93.7.